Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 25 et le titre très délicat qui suscite des problèmes, c'est de combattre la luxure. Nous avons déjà parlé de ça. Mais c'est un sujet très difficile. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Cela est absolument impossible. Voyez-vous, il est tout à fait normal que tous ceux qui écoutent une étude telle que celle-ci, que certains auditeurs diront que cette étude est exagérée et carrément irréalisable. Je vais donc être 100% franc et véridique avec vous en ce qui me concerne personnellement. Prenons deux personnes totalement opposées. Charles a été élevé dans un foyer profondément chrétien et à l'âge de 12 ans, ses parents ont mis leur fils dans un institut privé chrétien. Plus tard, Charles a suivi des études théologiques dans une université reconnue mondialement. Il y a donc, soyons très honnêtes, beaucoup plus de possibilités que Charles puisse atteindre une certaine sainteté. Ce qui va être beaucoup plus difficile pour un enfant élevé dans une ambiance totalement opposée à Charles. Donc, je prends simplement mon cas personnel. Et vous pouvez trouver sur Internet mon témoignage sur www.bibleexplique.ch. Dieu a permis, dans son incomparable grâce et amour, que je puisse arriver à un grand âge pour enfin arriver à une certaine sainteté, bien qu'il y a parfois encore des pensées, heureusement très courtes, qui nécessitent encore la nécessité de me mettre sous la protection du sang de Jésus-Christ. Donc, le chemin d'un Charles est de beaucoup moins pénible pour arriver à la sainteté que le mien. Mais, trêve de tout cela, nous n'allons pas polémiquer là-dessus. Une chose est certaine, nous tous, nous pouvons y arriver, tôt ou tard, si nous voulons bien combattre. Mais permettez-moi de poursuivre notre étude actuelle. Chers amis, si Jésus s'est servi de la menace de l'enfer, c'est pas moi qui le dis, pour nous mettre en garde contre la gravité de la luxure, faut-il en conclure qu'un chrétien peut périr? J'ai assisté à exactement la même réaction il y a quelque temps lorsque j'ai interpellé un homme à propos de la relation adultère qu'il entretenait. Après avoir essayé de comprendre sa situation et d'avoir supplié lui et sa femme de essayer de se remettre ensemble, je lui ai expliqué, vous savez, Jésus dit que si vous ne luttez pas contre ce péché avec une détermination telle que vous serez prêt à vous arracher un œil, vous irez en enfer et vous souffrirez éternellement. Comme c'était un chrétien engagé, il m'a regardé d'un air totalement incrédule, comme s'il n'avait jamais rien entendu de tel de sa vie, et il m'a lancé « Mais voyons, vous voulez dire que vous croyez qu'on peut vraiment perdre son salut ?» J'ai donc pu constater plusieurs fois par mes contacts personnels, évidemment d'autres fois, que bien des chrétiens engagés ont une conception du salut déconnectée de la réalité de la vie, qui invalide les menaces de la Sainte Bible et qui met celui qui pêche, tout en se réclamant de la foi chrétienne, à l'abri des mises en garde publiques. Je crois personnellement que cette conception de la vie chrétienne rassure des milliers de gens qui marchent sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Notez Saint Matthieu chapitre 7 verset 13. Jésus a dit que celui qui ne lutte pas contre la luxure n'ira pas au ciel. Il n'a pas dit que les chrétiens sont toujours victorieux. Il n'a pas dit ça. Mais l'essentiel est que nous soyons déterminés à lutter, pas que nous affichions simplement une réussite parfaite. Voyez-vous, les enjeux sont bien plus importants que de savoir si le monde va être pulvérisé par un millier de missiles longue portée, si des terroristes vont plastiquer votre ville, si le réchauffement climatique va faire fondre la calotte glaciaire, ou bien si le sida va ravager des pays entiers. En effet, toutes ces catastrophes ne peuvent que tuer le corps. En revanche, si nous ne luttons pas contre la luxure, c'est notre âme que nous allons perdre. L'apôtre Pierre nous exhorte. Il dit « Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. » Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Les enjeux de cette guerre-là sont infiniment plus graves que ceux de n'importe quelle menace que peut faire peser sur nous la guerre ou le terrorisme. Après avoir énuméré l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, l'apôtre Paul conclut « Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu » Colossiens chapitre 3 versets 5 et 6. Or la colère de Dieu est infiniment plus à craindre que celle de toutes les nations rassemblées, que ce soit par Vladimir Poutine ou Donald ou celui de la Corée du Nord. En Galates chapitre 5 verset 19, l'apôtre Paul mentionne l'immoralité, il mentionne les pratiques dégradantes et la débauche. Et il affirme ensuite que ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est le célèbre apôtre Paul, un saint, vraiment, on peut le dire. Galates chapitre 5, verset 21. La justification doit donc rimer avec la sanctification. Nous sommes justifiés uniquement par la grâce et par le seul moyen de la foi. Romains chapitre 3, verset 28, chapitre 4, verset 5, chapitre 5, verset 1, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Et tous ceux qui sont ainsi justifiés seront glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. C'est-à-dire, chacun sera justifié et il ne sera pas perdu. Toutefois, ceux qui se livrent à l'impureté seront hélas perdus. C'est écrit dans Galates chapitre 5, verset 21. Ceux qui renoncent au combat contre la luxure périront. C'est Matthieu chapitre 5, verset 30. Ceux qui ne recherchent pas la sainteté ne verront pas le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et ceux qui s'abandonnent à des désirs mauvais seront livrés à la colère de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 6. Si ces deux groupes de textes ne sont pas contradictoires, c'est parce que la foi qui justifie est aussi une foi qui sanctifie. Être justifié par la foi, c'est recevoir le Christ comme celui qui a été crucifié pour porter notre péché et qui est ressuscité pour être notre justice devant Dieu, avec tout ce que Dieu promet d'être pour nous en lui. Or, nous sommes appelés à recevoir constamment le Christ de cette manière-là. Notre foi, devenant ainsi non seulement la voie de la justification, mais aussi celle de la sanctification. Pour savoir si notre foi est celle de la justification, nous devons nous demander si c'est aussi celle de la sanctification. Il ne s'agit donc pas de deux types différents de foi. Elles consistent toutes les deux à recevoir le Christ qui a porté notre châtiment et qui a acquis notre justice et qui promet de répondre à tous nos besoins jusqu'à la fin des temps. Voici comment cette articulation a été exprimée par Robert Danet, théologien presbytérien du XIXe siècle. Est-ce par l'instrumentalité de la foi que nous recevons le Christ comme notre justification sans le mérite d'une seule de nos œuvres? Soit. Mais cette même foi, si elle est suffisamment essentielle, vraiment essentielle pour recevoir le Christ, elle sera aussi suffisamment essentielle pour être agissante par l'amour, pour purifier notre cœur. Telle est donc la vertu de l'Évangile qui est offert gratuitement en tant que ministère de sanctification, à savoir que cette même foi qui reçoit le don divin, on peut dire le don qui devient maintenant un principe d'obéissance inéluctable et divinement puissant. Alors la foi délivre vraiment de l'enfer, et la foi qui délivre de l'enfer délivre également de la luxure. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que notre foi produit une existence parfaite et sans tache ici-bas. Je veux dire simplement qu'elle produit la persévérance dans le combat. La nature justificatrice de la foi est attestée dès lors que celle-ci combat la luxure. Jésus n'a pas dit que la luxure disparaîtrait complètement, mais il a dit que le signe que nous sommes en route pour le ciel, c'est que nous sommes prêts à nous arracher l'œil plutôt que de nous résigner à un mode de vie caractérisé par la luxure. Le propos de cette étude est avant tout de montrer que le combat contre le péché est un combat contre l'incrédulité. Autrement dit, combattre pour la pureté, c'est combattre pour la foi dans la grâce à venir. La grave erreur que je m'efforce de démolir est celle qui consiste à dire « Il y a d'un côté la foi en Dieu et de l'autre le combat pour la sainteté. La justification s'obtient par la foi et la sanctification, elle s'obtient par les œuvres. C'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'on démarre la vie chrétienne. Mais c'est par les efforts, oui, par les efforts de la chair qu'on peut persévérer. Le combat pour l'obéissance est donc facultatif dans la mesure où seule la foi est nécessaire au salut final. Seule la foi est l'instrument qui nous unit au Christ, qui est notre justice et qui est notre raison de notre justification. Toutefois, une pureté de vie qui confirme la réalité de notre foi est elle aussi primordiale pour notre salut final, non pas en tant que raison de notre statut de justifié, mais en tant que fruit et en tant que preuve de ce que nous sommes unis de façon vitale par la foi à Jésus-Christ, qui seul est la raison de notre acceptation par Dieu. Chers amis, la foi dans la grâce à venir brise le pouvoir du péché expié par Jésus-Christ. Le combat pour l'obéissance est absolument nécessaire à notre salut final, car c'est tout le sens du combat de la foi. Quant au combat contre la luxure, il est absolument nécessaire à notre salut final, car c'est tout le sens du combat contre l'incrédulité. J'espère qu'à la lecture de ces lignes ou de ces paroles que je viens de dire, vous vous allez rendre compte que cet évangile est beaucoup plus glorieux que l'autre. C'est en effet l'évangile de la victoire de Dieu sur le péché et pas simplement de sa tolérance à l'égard du péché. Je répète, c'est en effet l'évangile de la victoire de Dieu sur les péchés et non pas simplement de sa tolérance à l'égard du péché. Ce n'est pas uniquement cette victoire sur le péché qui constitue le fondement de notre acceptation éternelle par Dieu, mais c'est Jésus-Christ, car il a pris sur lui notre péché. C'est sa justice qui compte pour nous. Ce statut de justifié, nous l'avons par la foi seule avant de vaincre le péché dans notre vie. Ensuite, par cette même foi et fort de cette acceptation inébranlable que nous avons en Dieu, nous faisons mourir nos penchants mauvais par la puissance et par la puissante grâce de Dieu. Tel est donc l'évangile annoncé en Romains chapitre 6, verset 14, où il est dit « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Grâce toute puissante et grâce souveraine, oui, grâce qui renferme en elle la puissance de Dieu à venir, et permet ainsi de vaincre les tentations de la luxure. Charles Wesley a dit « Il brise le pouvoir du péché expié, Il libère le captif. Son sang peut purifier le plus ignoble. Son sang qui m'a sauvé. Désormais, je n'ai plus d'effroi. Aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula pour moi. Eh bien, le cantique de Charles Wesley dit absolument vrai. Le sang de Jésus-Christ nous a acquis non seulement l'expiation du péché, mais aussi la victoire sur son pouvoir. Telle est donc la grâce au bénéfice de laquelle nous vivons, la grâce de Dieu qui a non seulement expié le péché, mais qui a brisé son pouvoir. La victoire sur le péché de la luxure implique donc tous les aspects de la grâce, c'est-à-dire la grâce passée, c'est-à-dire la culpabilité de la luxure expiée par la croix, et la grâce à venir, c'est-à-dire le pouvoir de la luxure brisée par l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle le seul combat qu'il nous faille mener, c'est le combat de la foi. L'objectif de ce combat, c'est que nous trouvions à tel point le contentement dans tout ce que Dieu est pour nous en Jésus, que la tentation du péché n'ait plus du tout de pouvoir sur nous. Chers amis, voici un des angles sous lequel l'apôtre Paul aborde la question du combat contre la luxure. Si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, eh bien vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Cette idée-là, elle est proche de l'enseignement de Jésus, selon lequel nous entrerons dans la vie si nous sommes prêts à nous arracher un œil plutôt que de nous livrer à la luxure. Saint Matthieu 18, verset 9. L'apôtre Paul en convient, c'est bien la vie éternelle qui est en jeu dans ce combat contre le péché. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, eh bien, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, eh bien, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Combattre la luxure, c'est donc lutter jusqu'à la mort. Et j'en sais quelque chose. Comment donc obéir à Romains chapitre 8, verset 13, qui nous exhorte à faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire à mettre à mort la luxure. Nous avons déjà répondu à cette question par la foi dans la grâce à venir. Mais concrètement, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, supposons que je sois tenté dans ce domaine. Une image sexuelle me vient à l'esprit et me fait signe de la suivre. Toute la force de ce type de tentation tient à sa capacité à me persuader que je serai beaucoup plus heureux en suivant son appel. Le pouvoir de toute tentation réside donc en effet dans sa promesse de plus grand bonheur. Personne ne pêche par sens du devoir. Si nous cédons au péché, eh bien c'est parce qu'il promet, au moins à très court terme, que les choses seront un peu plus agréables. Que dois-je donc faire, moi? Certains vont dire qu'il suffit de se souvenir du commandement de Dieu nous appelant à la sainteté. 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Et d'exercer sa volonté afin de lui obéir tout simplement parce qu'il est Dieu. Cependant, il manque à ce conseil un aspect primordial, c'est à savoir la foi dans la grâce à venir. En effet, nombreux sont ceux qui essayent de faire des efforts en matière de moralité alors qu'ils sont incapables d'affirmer avec l'apôtre Paul « Ma vie en tant d'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi, il s'est livré à la mort à ma place. » Galates chapitre 2, verset 20. Il s'efforce donc d'atteindre la pureté de l'amour sans se rendre compte qu'un tel amour est le fruit de la foi dans la grâce à venir. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, mais c'est d'avoir la foi. La foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. Alors, en quoi consiste donc ce combat contre la luxure mené par la foi dans la grâce à venir? Romains chapitre 8, verset 13 revient à dire que lorsque survient la tentation de la luxure, si vous faites mourir par l'esprit ces désirs mauvais, vous vivrez par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, de toutes les armes que Dieu met à notre disposition pour combattre Satan, une seule sert à tuer, c'est l'épée. Elle est d'ailleurs appelée l'épée de l'Esprit, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Par conséquent, quand l'apôtre Paul nous exhorte à faire mourir le péché par l'Esprit, j'y vois le sens de s'en remettre à l'Esprit et plus précisément à son épée. Qu'est-ce que l'épée de l'Esprit Saint? Eh bien, c'est tout simplement la sainte parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. C'est donc ici que entre en jeu la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la sainte parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Cette parole de l'Évangile à propos du Christ et de son œuvre de salut nous assure toutes les richesses du Christ et de ses promesses. Telle une épée, cette parole fend donc l'épaisse brume des mensonges de Satan et me montre où se trouve le bonheur véritable et surtout durable. Ainsi, la sainte parole m'aide-t-elle à ne plus placer ma confiance dans la capacité du péché à me rendre heureux momentanément? Bien au contraire, la sainte parole m'incite à placer ma confiance dans les promesses de Dieu. Quand c'est la foi qui occupe la première place dans mon cœur, eh bien je trouve le contentement dans le Christ et dans ses promesses. C'est précisément le sens de cette parole de Jésus qui dit que celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Saint Jean chapitre 6, verset 35. Lorsque ma soif de joie, de sens et d'émotion forte est satisfaite par la présence et par les promesses de Jésus-Christ, eh bien le pouvoir du péché se trouve enfin brisé. Qui se laisserait tenter par un banal sandwich, quand ses narines sont chatouillées par l'odeur d'un bon steak en train de griller sur le grill. Le combat de la foi contre la luxure consiste donc à lutter pour rester uniquement satisfait en Dieu. C'est par la foi que Moïse renonça à la jouissance éphémère du péché, car il regardait beaucoup plus loin, il regardait vers la récompense, selon Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26. La foi ne se contente donc pas de la jouissance éphémère, mais elle est avide de joie authentique. Or, la parole de Dieu déclare, « Il y a abondance de joie devant ta face, il y a des délices éternelles à ta droite. » Psaume chapitre 16, verset 11. C'est donc pourquoi la foi ne se laisse pas entraîner vers le péché. Elle n'abandonne pas si facilement dans sa quête de la joie maximum. Le seul rôle de la sainte parole de Dieu, c'est de nourrir la soif de Dieu qui anime ma foi. Cela a pour effet de dissuader mon cœur de se laisser séduire par le goût trompeur de la luxure. Au début, la luxure parvient à me faire croire que je passerai vraiment à côté d'une grande satisfaction si je décidais de suivre le chemin de la pureté. Mais ensuite, je m'empare de l'épée de l'esprit et je commence le combat. Et je lis qu'il est préférable que je m'arrache un œil plutôt que de céder à la luxure. Je lis que si je nourris mes pensées de tout ce qui est pur, aimable et qui mérite l'approbation, la paix de Dieu, elle sera avec moi, selon Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Et je lis encore que s'attacher aux choses de la chair, cela mène à la mort, tandis que de s'attacher aux choses de l'Esprit Saint, cela produit la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Et je lis encore que la luxure fait la guerre à l'âme. Premier épître de Pierre chapitre 2, verset 11. Et que les plaisirs de cette vie étouffent, elle étouffe la vie de l'esprit. Saint Luc chapitre 8, verset 14. Mais mieux encore, je lis encore que Dieu ne refuse aucune bonne chose à tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume chapitre 84, 84, verset 12. Et que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Selon Saint Matthieu chapitre 5, verset 8. Tandis que je prie en demandant que ma foi trouve le contentement dans la vie et la paix de Dieu, l'épée de l'esprit retranche la couche de sucre qui recouvre le poison qui constitue la luxure. Je la vois alors telle qu'elle est réellement, et par la grâce de Dieu, son pouvoir de séduction est enfin brisé. Je manie l'épée de l'esprit contre le péché de la luxure en ayant davantage foi dans les promesses de Dieu que dans celles de la luxure. Ma foi ne consiste donc pas seulement à regarder en arrière et à croire à la mort de Jésus, mais elle se porte aussi vers l'avant en anticipant les promesses de Jésus. Elle ne consiste donc pas seulement à être sûr de ce qu'il a effectivement accompli, mais aussi à trouver le contentement dans ce qu'il va accomplir. En fait, c'est de trouver le contentement dans ce qu'il va accomplir précisément en raison de ce qu'il a déjà accompli, selon Romains chapitre 8, verset 32. Lui-même, dont on peut dire lui-même qui est le don de l'Esprit Saint, Il sait ce contentement supérieur trouvé dans la grâce à venir qui va briser le pouvoir de la luxure. Et en sachant que l'enjeu est l'éternité tout entière, eh bien, nous allons mener le combat de la foi. Notre plus grand ennemi, c'est donc le mensonge qui affirme que c'est le péché qui rendra notre avenir un peu plus heureux. Mais notre arme la plus puissante, c'est la vérité qui affirme que c'est Dieu qui rendra notre avenir beaucoup plus heureux, pas seulement un tout petit peu. Et la foi et la victoire, c'est la foi et la victoire qui va triompher. Elle va triompher de ce mensonge, car la foi, elle trouve son contentement tout simplement en Dieu. Chers amis, il faut combattre le feu des plaisirs de la luxure par le feu des plaisirs de Dieu. Surtout si nous essayons de combattre le feu de la luxure uniquement par des interdictions et des menaces, y compris les terribles mises en garde de Jésus, alors nous allons échouer. Nous devons le combattre par une promesse éclatante de bonheur suprême, ou si vous voulez, de bonheur supérieur. Nous devons engloutir les petites flamèches de plaisir que peut offrir la luxure dans le brasier du saint contentement. Et quant à l'instar de Job, nous conclurons un pacte, comme l'a fait Job, avec nos yeux, Job 31, verset 1, eh bien notre but n'est pas simplement d'éviter la vue de quelque chose d'érotique, non, mais aussi de gagner quelque chose d'excellent. Et voici comment l'apôtre Pierre a décrit ce puissant processus libérateur. Notez 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'ai dit 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. Comment fuir la corruption qui règne en raison de la convoitise générale par la luxure? Eh bien, la réponse se trouve dans ce passage. Dieu nous a révélé sa propre gloire et il nous a révélé sa vertu qui s'est exprimée par les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Celles-ci nous ont été données précisément dans ce but, afin que par elles, nous ayons part à la nature de Dieu et que nous soyons libérés de la corruption de la luxure. Le secret réside donc dans le pouvoir des promesses de Dieu. C'est en étant saisi par la valeur et par la grandeur de ces promesses que nous sommes libérés des désirs de la luxure qui ne sont en réalité ni précieux ni grandes. L'apôtre Paul parle de désirs trompeurs, selon Éphésiens chapitre 4, verset 22, à propos de l'esclavage de la luxure, et il affirme que si les païens se laissent dominer par des passions déréglées, eh bien c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Dans le même ordre d'idées, l'apôtre Pierre parle des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance, c'est-à-dire l'ignorance à propos de la gloire de Dieu et des promesses les plus précieuses et les plus grandes qu'il a données à l'homme. 1 Épître de Pierre, chapitre 1, verset 14. L'apôtre Paul et Pierre veulent insister par là sur le fait que les désirs de la luxure tirent leur pouvoir des mensonges qu'ils véhiculent dans le but de nous tromper. Ils profitent de notre ignorance quant aux promesses de Dieu. Ils prétendent de nous offrir des plaisirs précieux et des expériences grandioses. Or, qu'est-ce qui peut nous en libérer? Qui peut nous en libérer? Eh bien, la vérité par sa force irrésistible et par son caractère à la fois édifiant et éblouissant. La vérité des précieuses, elle est précieuse, et les grandes promesses de Dieu, qui révèlent, eux, les mensonges de la luxure à la lumière de la gloire incomparable de Dieu. Je répète cela, la vérité des précieuses et des grandes promesses de Dieu qui révèlent les mensonges de la luxure à la lumière de la gloire incomparable de Dieu. À l'automne 1982, le magazine Leadership a publié un article écrit par un pasteur qui confessait avoir été esclave pendant des années de la pornographie la plus répugnante. Il y racontait ce qu'il en avait finalement délivré. Confirmation magistrale de ce que j'essaye d'expliquer. Il se trouve que ce pasteur était tombé sur l'ouvrage de François Mauriac intitulé « Ce que je crois », dans lequel l'auteur reconnaît que le poids de la culpabilité n'est pas parvenu à le libérer de la luxure. Mauriac conclut qu'il y a essentiellement une raison de rechercher la pureté, c'est-à-dire celle que Jésus-Christ a donnée lui-même dans les Béatitudes, où il a dit « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu ». C'est Matthieu chapitre 5, verset 8. C'est en effet la précieuse et grande promesse que les purs verront Dieu qui nous donne la force de fuir la luxure. Voici ce que racontait ce pasteur qui avait été esclave de la luxure. Écoutez la suite. Une pensée s'est tout d'un coup imposée à moi avec une grande évidence. Jusqu'ici, aucun des arguments négatifs propres à faire peur n'avait réussi à m'empêcher de céder à la luxure. Or, j'avais sous les yeux la description de ce à côté de quoi je passais en continuant à donner tant de place à la luxure. Je mettais donc un frein à mon intimité avec Dieu. L'amour qu'il offre est tellement transcendant et exclusif que celui-ci exige, il exige que nos facultés soient totalement lavées et purifiées avant que nous puissions imaginer le contenir. Était-il réellement capable de remplacer la soif que je n'étais jamais parvenu à satisfaire par une autre soif et une autre faim? Eh bien, l'eau vive pouvait-elle vraiment étouffer en moi la luxure? Tel était donc le pari de la foi. Ce n'était évidemment pas un pari, car on ne peut perdre quand on se tourne vers Dieu. Cet homme en fit donc l'expérience dans sa propre vie et la leçon qu'il en tira est tout à fait juste. Le meilleur moyen de combattre la luxure et de nourrir notre foi de cette précieuse et grande promesse que tous ceux qui ont le cœur pur verront la face de Dieu. Ils le verront face à face. Ils verront face à face le Dieu de gloire qui seul peut nous procurer vraiment le contentement parfait pour l'éternité. Le défi qui nous est lancé dans ce combat contre la luxure ne consiste pas simplement à faire ce que dit Dieu parce qu'il est Dieu, mais à désirer ce que dit Dieu parce qu'il est le Dieu de gloire. Le défi ne consiste donc pas simplement à rechercher la justice, mais à choisir la justice. Le défi consiste, en nous levant le matin, à méditer dans le recueillement les Saintes Écritures et à reconnaître que c'est uniquement en elles que nous voyons l'évangile de la gloire du Christ. C'est en elles seulement que nous rencontrons le fondement et l'objectif de toutes les promesses de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour terminer notre étude, reconnaissons que le défi qui nous est lancé consiste à méditer ces passages qui révèlent le Christ jusque à ce que nous fassions l'expérience de toute joie et de toute paix dans la foi, tant en lui que dans les promesses les plus précieuses et les plus grandes qui nous ont été données. Romains chapitre 15, verset 13, 2e épître de Pierre chapitre 1, verset 4. Dès lors que la foi dans la grâce à venir nous comblera en nous apportant la joie qui nous est réservée, l'exigence biblique de la pureté du cœur ne sera pas pénible. 1er épître de Saint Jean chapitre 5, verset 3. Et le pouvoir de la luxure sera enfin brisé. Ces bénéfices trompeurs nous apparaîtront bien trop éphémères et superficiels pour pouvoir nous séduire maintenant. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble. Mais j'avais reçu quelque chose encore pour vous transmettre, si c'était possible, pour vous aider dans votre édification personnelle. Écoutez bien ce que j'essaye maintenant de vous communiquer. Mon fils, ma fille, écoute mes paroles, paroles pleines de douceur et qui surpassent toute la science des philosophes et des sages du monde. Mes paroles sont esprit et vie. Il ne faut pas en tenir une vaine complaisance, mais les écouter en silence et les recevoir avec une humilité profonde et un ardent amour. Et j'ai dit, moi, David, heureux celui que tu instruis, Seigneur, et à qui tu enseignes ta loi, afin de lui adoucir les jours mauvais et de ne le point laisser sans consolation sur la terre. Psaume 93, versets 12 et 13. C'est moi qui ai, dès le commencement, instruit les prophètes, nous dit le Seigneur. Et jusqu'à présent même, je ne cesse point de parler à tous, mais plusieurs sont endurcis et sont sourds à ma voix. Le plus grand nombre écoute le monde de préférence à Dieu. Ils aiment mieux suivre les désirs de la chair que d'obéir à la volonté divine. Le monde promet peu de choses et des choses qui passent et on le sert avec une grande ardeur. Or, je promets des biens immenses et éternels et le cœur de l'homme reste malheureusement froid. Pour un petit avantage, on entreprend une longue route et pour la vie éternelle, en à peine en trouve-t-on que veuille faire un seul pas à la fois. Serviteur paresseux et toujours murmurant, rougis donc de ce qu'il y ait des hommes plus ardents à leur perte que tu ne l'es à te sauver, et pour qui la vanité a beaucoup plus d'attrait que n'en a pour toi la vérité. Et cependant, ils sont souvent abusés par leur espérance, tandis que ma promesse ne trompe point, et que jamais je me refuse à celui qui se confie en moi. Ce que j'ai promis, je le donnerai. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Si toutefois l'on demeure avec moi dans mon amour jusqu'à la fin, c'est moi qui récompense les bons et qui éprouve fortement les justes. Gravez donc mes paroles dans votre cœur et méditez-les profondément, car l'heure de la tentation, elles vous seront très nécessaires. Ce que vous n'entendez pas en le lisant, vous le comprendrez au jour de ma visite. J'ai coutume de visiter mes élus de deux manières, par la tentation et par la consolation. Et tous les jours, je leur donne deux leçons. L'une en les reprenant de leurs défauts et l'autre en les exhortant à avancer dans la vertu. Par contre, celui qui reçoit ma parole et qui la méprise, il sera jugé par elle au dernier jour. Amen. Et chers amis, maintenant, nous allons donc prier ensemble. Prions. Seigneur Dieu, Père des miséricordes, nous te rendons grâce pour les victoires de l'Évangile dans le passé et dans le présent, en nous, dans la famille, dans l'Église, dans l'humanité tout entière, à travers les âges, et nous te rendons grâce pour son futur triomphe. Préserve-nous, ô Seigneur, d'être consciemment ou non des obstacles à l'avènement de ton règne. Au moment où sur le sentier de Jésus-Christ se profile soudain l'ombre de la croix qui l'attend au moment d'entreprendre avec lui le douloureux pèlerinage qui va le mener au calvaire, fais-nous sentir avec force, fais-nous réellement comprendre que la condition du triomphe promis, c'est le secret de l'action rédemptrice, résidant dans l'obéissance et dans le sacrifice librement consenti. Et préserve-nous à rester fermes contre toutes les rechutes et de vivre notre foi dignement. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et merci, chers amis, de votre écoute. Et souvenez-vous, que Dieu vous aime, que Dieu vous aime vraiment d'un amour profond. Tous ceux qui un jour ont accepté sa main tendue et qui ont désiré de s'approcher de lui toujours plus pour devenir sanctifiés et purifiés pour la sainteté, eh bien, Dieu vous aime, et il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous dis oui, je vous aime et soyez donc bénis en Jésus-Christ qui est votre et notre Sauveur et Seigneur. Amen.